Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
La très prestigieuse NRF, la Nouvelle Revue Française, a publié presque tous les écrivains importants du XXe siècle et continue de publier ceux du XXIe. C'est une des plus célèbres revues littéraires internationales qui se porte aujourd'hui à merveille. Son rédacteur en chef, Michel Crépu, est un écrivain raffiné, un esprit critique et élégant, atypique et cultivé. Mais l'histoire de cette revue n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Deux fois, elle a dû cesser sa publication pendant la guerre de 14, puis en 1943. Quand elle reparaît en 1953, pour ne plus jamais s'interrompre, c'est sous l'impulsion de deux hommes magnifiques. Jean Paulhan, qui a marqué son époque par sa personnalité et son talent hors normes, et Marcel Arlan, qui avait été pris Goncourt en 1929 et qui occupa le fauteuil d'André Mauroy à l'Académie française. C'est lui qui, en 1976, dans cette émission, présentait la NRF aux auditeurs de France Culture.
Gérard Guégan, Raphaël Sorin, avec la collaboration d'Alain Paulet, présente, revue et corrigée. Janvier 1953. Ouverture du procès de Radour-sur-Glane devant le tribunal militaire de Bordeaux. Pierre Herbart termine d'écrire L'Âge d'or. Jean Giono s'apprête à publier Le Moulin de Pologne et Maurice Blanchot, Celui qui ne m'accompagnait pas. Janvier 1953, premier numéro de la nouvelle revue française. Avec nous, ce soir, Marcel Arlan.
La Nouvelle Revue Française avait paru pendant l'occupation, sous la direction de Drieux La Rochelle, et comme vous le savez, tous les organes qui avaient paru pendant l'occupation n'avaient plus le droit de paraître après. Jean Paulhan avait fait une revue qui s'appelait Les Cahiers de la Pléiade, qui paraissait en principe tous les trois mois, qui était très bon, de bons cahiers. Et puis, il est venu un jour où on nous a demandé d'un peu partout, et même d'une façon officielle, de reprendre la NRF. Et on l'a pris sous le nom un peu ridicule, la nouvelle revue française, après qu'on nous a prié de ne pas faire les plaisantes, hein, et de nous appeler simplement la Nouvelle Revue Française. Ça s'est passé en 53, plus exactement en 52. C'est en 52 que Gaston Gallimard, l'éditeur, n'est-ce pas, nous a demandé à Jean Paulhan et à moi de reprendre la revue. Il avait demandé à Jean, Jean ne voulait pas, me dit non, je ne la reprendrai pas seul, ils sont un peu fatigués, et il l'était. Alors j'ai accepté, il voulait que je la reprenne, j'ai dit non, je ne la reprendrai pas seul parce que je ne suis pas né directeur de revue, je suis fait peu aider quelqu'un, comme j'ai toujours aidé Paulhan, n'est-ce pas, depuis la mort de Rivière, mais je ne veux pas diriger seul une revue. Alors donc nous étions tous les deux et nous avions comme secrétaire de rédaction Mme Dominique Horry qui a été très dévouée, qui est encore aujourd'hui avec nous. Ceci a duré pendant longtemps. Alors, vous savez les questions qui se posaient à cette époque-là. C'est important. Il fallait donc réunir, non seulement comme après la Première Guerre, les écrivains anciens d'avant la guerre, les écrivains connus, illustres avant la guerre, avec les jeunes écrivains. Mais cette fois-ci, se posait une nouvelle question. C'était les drames qui subsistaient encore de l'occupation, de la libération, etc. C'est-à-dire, publié dans le même numéro, si vous voulez, Malraux avec Chardon ou Jouandeau. Bon, on y est parvenu. On y est parvenu, et Camus. Camus un jour vient me dire, Marcel, si c'était pas à cause de vous, eh bien non, je ne collaborerai pas à la revue. Je dis, Albert, ça va, écoutez, faites un petit effort, on ne parlera pas de politique à la revue. Alors Camus était très gentil, bon. Et peu à peu, mais il a fallu des années avant que d'apaiser tout le monde et de dire que tout le monde voit bien, nous ne servons ici que la littérature. Voilà. Et quant à la réunion des aînés et des jeunes, eh bien, elle s'est faite d'une façon naturelle. À ce moment-là, les jeunes s'appelaient, ils sont connus aujourd'hui, ils ne sont plus jeunes. C'était Rob Grillet, c'était Butor, c'était Nathalie Sarraute, etc. Et ils sont venus, et j'espère que ça... Oui, alors, bien entendu, il y a eu ce fait grave que Jean Paulhan est tombé malade, fatigué en tout cas, puis malade, et a dû se retirer de la revue. Que moi-même, je n'étais pas en bonne santé, j'ai dû subir plusieurs opérations aux yeux. Alors que j'ai repris la revue avec d'autres concours, nos collaborateurs ont été très gentils, très dévoués. J'ai demandé à Gaston Gallimard, il me faut quelqu'un pour remplacer Jean Paulhan le mieux possible. Et nous avons songé à un de nos amis, qui était un ami de Malraux, qui s'appelait Jean Grosjean, le poète, pour qui j'ai une très haute estime. Déjà à ce moment-là, j'avais une très grande estime, à la fois pour le poète et pour l'homme lui-même, qui est un homme très noble. Alors Jean Grosjean a accepté de venir, il habite Versailles, il vient 2 ou 3 jours ici. Moi, je ne peux pas habiter Paris parce que je serais malade, alors je viens aussi 2 ou 3 jours. Voilà.
Monsieur Arlan, oui. Dans le numéro 1 de la nouvelle revue française, je détache dès les premières lignes cet avertissement, ou tout au moins cette profession de foi. Vous écriviez à l'époque, nous nous proposons avant tout de créer et de maintenir contre la mode, contre les jeux d'esprit, contre les ridicules invites des prix, du succès, voire de la radio et du cinéma, le pur climat qui permette la formation d'œuvres authentiques. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que, je dirais, ce préambule reste toujours valable, acceptable, recevable?
Oui, votre question est maligne. Oui, je le considère comme valable. Je considère qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'une revue indépendante, d'une revue entièrement dévouée à la cause des lettres, n'ignorant pas d'ailleurs ce qui se passe ailleurs, bien entendu. Je ne ferai peut-être pas allusion à la radio qui nous a rendu des services. Nous avons été très souvent heureux, la radio, la télévision, mais la radio surtout que je connais mieux, notamment à France Culture, où j'ai des amis qui sont là et qui ont servi eux aussi de leur côté. Donc il y avait dans cette première déclaration quelque chose que nous ne remettrions pas aujourd'hui. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, mais parce que nous le pensons.
Est-ce que vous pensez toujours qu'aujourd'hui, la revue que vous dirigez est nouvelle, forme réellement une revue au sens où vous l'avez définie à l'époque, française, ça je le suppose, mais c'est surtout les termes de nouveau, oui. Donc de nouvelle en l'occurrence, et de revue. Est-ce que c'est toujours quelque chose de nouveau, de neuf, qui est à l'œuvre à la NRF?
Voyons, c'est très... Oui, la réflexion est excellente. On ne peut pas dire que la nouveauté de la NRF apparaisse comme elle apparaissait quand Gide et Schlumberger et leurs amis Copeaux, etc., Rivière, l'ont fondée, n'est-ce pas? Elle est nouvelle pour nous dans le sens où il faut toujours renouveler un effort. Mais évidemment, elle n'aurait pas de raison de s'appeler nouvelle comme une jeune revue pourrait tout à coup surgir en disant les nouvelles lettres, si vous voulez. Alors là, on attendrait tout de suite, ah ben, ils vont changer les lettres. Ce n'est pas notre prétention de changer les lettres, c'est au contraire de les maintenir, non pas telles qu'elles étaient hier, mais de maintenir un progrès constant dans les lettres, appuyé sur des recherches qui se font de moins en moins dans les revues, mais qui se faisaient ce qu'on disait recherches de laboratoire, ce qui est un petit peu fâcheux pour ces recherches, mais enfin qui se faisaient autrefois dans les jeunes revues où on ne craint pas l'excès, etc., et que nous ne pourrions pas exactement faire de même dans la NRF. Mais nous avons gardé ce contact avec les efforts faits ailleurs, et nous les avons soin de les signaler le plus souvent possible dans la revue. Et nous recevons presque toujours ces garçons lorsqu'ils ont fait leur apprentissage, si vous voulez, dans une nouvelle voie.
Mais le fait qu'il existe dans la même maison, c'est-à-dire la maison Gallimard, une revue qui s'appelle Les Cahiers du Chemin, par exemple, oui. Est-ce que ce n'est pas nier l'aspect littérature de laboratoire au sein de la NRF?
Non, pas exactement, ce serait trop facile. D'abord, une bonne partie, et je crois dire les meilleurs, des auteurs de la revue des Cahiers du Chemin, c'est nous qui les avons donnés aux Cahiers du Chemin, que ce soit Mandiague, Perros, je ne sais pas qui, beaucoup d'autres. Une autre partie, alors nous ne la publierions pas dans la NRF, c'est celle qui pourrait se rapprocher un petit peu, comment vous dire, grossièrement, un peu recherche genre tel quel, etc., jonglerie verbale, etc. Ça, je préfère qu'il y ait une revue dans la maison pour s'en soucier, n'est-ce pas? Mais je crois que le meilleur de la revue que dirige Georges Lambix, nous l'approuvons, et encore une fois, nos collaborateurs, et la plupart viennent d'ici, de la NRF.
Quand on relit les premiers numéros de 53, on s'aperçoit qu'il y a des notes sur les livres qui viennent de paraître et que certaines, contrairement à ce qui se passe maintenant, sont un peu scandaleuses. Il y a par exemple la note d'Étiamble sur le livre de Rebattet, ça a dû faire du bruit à l'époque, ça a dû provoquer des polémiques. Il semble que maintenant les notes de lecture, c'est très important dans une revue de la Nouvelle Revue Française, sont au contraire extrêmement neutres.
Oui, c'est très vrai. C'est très vrai, je dirais qu'elles sont même trop neutres. Dans la mesure où, par exemple, un groupe d'écrivains attaquerait la Nouvelle Revue Française, je dirais, soyons neutres, soyons plutôt plus gentils parce qu'il nous a attaqués. Mais je voudrais bien qu'on fasse un choix plus sévère, que nous ne parlions de livres où chacun de nos collaborateurs s'engage, comme on dit, et dit « voilà, j'aime ce livre pour telle ou telle raison, mais il y a ça que je n'aime pas dans l'autre. » Ou alors « je n'aime pas ce livre, à condition que le livre ait de la valeur, pour telle ou telle raison. » Ça, je souhaiterais que de plus en plus nous ayons des collaborateurs. C'est ce que je leur demande à nos jeunes gens. J'espère que nous y parviendrons. Mais c'est très difficile, parce que la grande différence, voyez-vous, au point de vue de la critique, il y a de bons critiques, mais la grande différence... Je prends en 1922, 23, 24, 25, en ma génération, c'est-à-dire la génération de Malraux, de Jean Prévost, de Chanson, de La Rochelle un peu aînée, etc., est venue aux lettres. Nous étions reçus à la NRF. On nous demandait, Jacques Rivière nous demandait, est-ce qu'il y a un livre dont vous voulez parler? Nous disions oui, voilà, je vais le lire, et bon. Mais ce livre dont nous parlions, ce n'était pas nécessairement un livre de nos tendances, ça pouvait être un livre de, je ne sais pas, de François Mauriac, aussi bien que de Bernanos, je me rappelle avoir écrit un article très pour Bernanos, comme j'ai écrit un article, le premier je crois, pour Céline, mais tout le monde, c'est-à-dire aussi, Malraux, on a écrit, Larbeau, Mauriac lui-même, j'étais Drieux, Jean Prévost, André Chanson, tous les écrivains de l'époque, les jeunes écrivains et les aînés, aimaient parler de livres. Et je dis pas seulement de livres de leurs amis, ni de leurs ennemis. Aujourd'hui, c'est très difficile. C'est très difficile. Évidemment, ça demande un effort qui est mal rémunéré. Ça compte aussi beaucoup, ça. D'autre part, ils n'ont pas toujours le temps. Ils ont un métier, un emploi. Ils ont leurs œuvres à faire. Bref, c'est presque un dévouement de la part de nos jeunes collaborateurs que de bien vouloir nous consacrer une part de leur temps. Il y a la lecture, déjà, la rédaction même de l'article. Moi, je me rappelle, j'ai tenu de 20, je sais pas quoi, mettons 28 ou 29 jusqu'à la guerre, la chronique des romans. Premièrement, je n'en faisais pas tous les mois, parce qu'il me semblait que tous les mois, il n'y avait pas toujours matière à une chronique. Mais la lecture, je lisais beaucoup de livres, déjà, pour choisir, je choisissais les livres. Ça prenait au minimum, et pas en saison littéraire, hein, en saison morte, en saison ordinaire, ça me prenait 8 jours au moins. Et je n'oubliais pas qu'à ce moment-là, je connaissais déjà beaucoup de livres que j'avais lus en manuscrit, etc. Et puis, le choix des livres, m'entendre avec Paulin, etc., je parlerai de ceci, de cela. Et puis, la rédaction même de la chronique, que voulez-vous, ça prenait au moins 10 jours par mois. J'étais payé 500 francs. Ben voilà, si je n'avais pas eu un métier, je n'aurais pas pu le faire.
Est-ce que vous pensez qu'il y a seulement des facteurs économiques qui sont à l'origine de ce tiédissement de la critique ou... Parce que je ne sais pas, lorsque vous parlez de votre génération, pour nous, il y a comme une sorte de nostalgie dans vos propos, et on a l'impression qu'aujourd'hui, finalement, la critique ressemble à son objet, c'est-à-dire que la passion c'est un peu perdu, c'est un peu estompé au fil des ans, non? Je veux dire, est-ce qu'il y a encore une littérature française?
Ah oui, ça je maintiens complètement. Complètement, et quand j'entends des gens tenir des discours trop sombres, n'est-ce pas, je me mets à râler, et ça je n'accepte pas. Et je connais ces gens, je connais une partie de ces gens. Je connais des garçons qui sont même en province, beaucoup en province, qui écrivent, qui envoient. C'est pas toujours bon ce qui, les manuscrits qu'ils envoient, mais il y a dans beaucoup d'entre eux une flamme véritable. Cela ne demande, n'est-ce pas? Et c'est pas tellement l'amour d'un prix littéraire qui leur fera écrire un roman, c'est qu'ils ont besoin d'écrire. Seulement, ils ont moins de soutien. Ils sont moins soutenus par les éditeurs. Les éditeurs, pour telle ou telle raison, songent davantage à leurs finances. Peut-être que c'est plus grave qu'autrefois, on ne sait pas.
Comment ont réagi les autres revues à la réapparition de la vôtre?
Mais en général, très mal. Il y avait en effet une revue, c'était La Parisienne. Mais auparavant, La Parisienne existait, je crois, car j'y ai collaboré. Vous me direz si je me trompe. Chez Plon, et le grand homme, c'était François Mauriac.
C'était La Table Ronde, là.
Ah, pas, vous voyez, je me trompais. Alors, je vais parler de La Table Ronde, qui existait avant la reprise de la NRF, et qui était une bonne revue, où j'ai collaboré jusqu'au moment où j'ai dû me fâcher un petit peu avec Mauriac. En tout cas, quand la NRF a repris, nous avons été attaqué par François Mauriac, ça, je me rappelle très bien, qui a traité Gaston Gallimard, quelque chose comme le requin, peut-être gentiment, vous comprenez, et puis c'était plus doux que ça. Et quant à Jean Paulhan, c'était le poisson pilote, vous savez, les requins paraît-il en poisson pilote, et moi j'étais l'ange de pureté dans la maison pour me dire, voilà. Alors, il y avait tout un pamphlet de Mauriac. Je dois dire qu'après, on est tombé dans les bras l'un de l'autre, car c'était un bon chrétien. Non, alors, on avait été tellement bien accueillis, mais ça a été très bien accueilli par les écrivains, voilà, et par les jeunes écrivains. Je ne vois pas ce qui nous a échappé, vraiment, aussi bien cette tendance qu'on a appelée le nouveau roman, que nous avons été les premiers à soutenir. Les premiers romans de Rob Grillet, par exemple, ont paru ici, dans la revue même, ou alors des gens très libres comme Roger Nimier, si vous voulez, oui, beaucoup d'autres.
Est-ce que Nimier, par exemple, était content que Rob Grillet écrive, ou est-ce que Rob Grillet regrettait que Nimier écrive? Quel était votre rôle dans tout ça?
Oui, le rôle a été difficile parfois. Nous recevions nos collaborateurs une fois par mois, tous. Et il y avait parfois des silences assez terribles, ça. Mais ces silences étaient remplacés très gentiment après par de petites... après tout, ce livre n'est pas si méchant que ça, mais oui, enfin, ils ont accepté. Et ça a été beaucoup plus loin. Je me plais, voici un souvenir, il n'y en a pas tellement de cet ordre-là. C'était non pas à la rentrée de cette année, mais je crois bien à la rentrée de l'an dernier. Je me trouvais seul dans mon bureau avec Madame Madeleine Lacour, notre secrétaire des rédactions, et vraiment j'avais le cafard, je lui disais « Oh, reprendre ça encore, oh, je suis fatigué, j'ai pas été en vacances, j'ai pété au bord de la mer. » Bon, j'étais fatigué. Là-dessus, entre un de nos amis, ce pouvait être, mettons, si vous voulez, Roger Judrin, qui revenait de Compiègne. Bon, on est content de le voir. Là-dessus, il y a un autre, lui, il venait du bord de la mer, il y a un autre venait de l'étranger. Ils venaient comme ça, librement. Il n'y avait pas de réunion fixée. Ils venaient comme ça. Des groupes se sont formés, des petits groupes près de cette fenêtre-ci, près du canapé, etc. Moi, j'écoutais, j'étais très surpris des sourires qu'ils échangeaient. Je prêtais l'oreille, je disais un mot. Je n'entendais que des choses aimables, qu'une bonne volonté de servir la littérature, que des réflexions sans venin. C'était merveilleux. La première fois, au début, quand on me demandait « Vous avez passé des bonnes vacances ?» Je croyais « Oh non, très mauvaise !» Puis après, comme ça. Et puis après, je disais « Oh, excellente !» Parce que je voulais être, vous comprenez, du même ton. Et ça a duré toute l'après-midi. Ils sont partis l'un après l'autre, comme ça, gentiment, comme des amis, qui venaient de travailler à une œuvre commune. Ça, je ne mens pas, c'était très rare. Et de cette qualité, car il n'y avait pas, quelque chose de douteux, de louche là-dedans. Nous sommes regardés après, Mme Lacour et moi, en disant, eh bien, nous avons de la chance, pour notre rentrée, d'avoir une telle réunion.
Je voudrais vous demander si vous avez quand même des regrets, des gens que vous auriez aimé publier et qui vous ont échappé. Est-ce qu'il y a des noms qui vous viennent à l'esprit ou pas?
J'ai fait tout ce que j'ai pu. Il y a des gens que j'aurais voulu voir publier davantage. Autrefois, j'aurais voulu que Bernanos publiait davantage. Céline est reparue, oui. J'aimerais publier. Il y a des écrivains que j'aime, que j'aimerais voir plus souvent à la revue, mais qui écrivent peu, comme Julien Gracq, si vous voulez. Mandiargues, j'aimerais bien que Mandiargues collabore plus souvent, mais je sais qu'il écrit moins qu'autrefois. Je ne sens pas d'ennemis, vous comprenez. Il n'y a pas d'ostracisme. Je ne vois pas parmi les écrivains auxquels vous pouvez penser quelqu'un qui serait, dont nous dirions, ah non, pas lui. Non, je ne vois pas. Ou alors des gens que j'aurais voulu voir publier longtemps et qui sont morts, comme mon ami Limbourg, ou mort depuis plus longtemps. J'ai connu des jeunes qui se sont tués aussi, que j'aimais bien. Mais aujourd'hui, non, je voudrais toujours que nos amis, les jeunes ou vieux, nous donnent ce qu'ils ont de meilleur, mais souvent ils le font d'eux-mêmes. Quand Michaud a quelque chose dont il est content, ce qui est rare chez lui, car il n'est pas souvent content de ce qu'il fait, il nous l'envoie sans qu'on lui demande. Je voudrais voir Jouandeau maintenant plus souvent. Autrefois, on disait Jouandeau est toujours là. Maintenant, non. Je sais que le pauvre Marcel, il m'a écrit l'autre jour, je ne pouvais pas lire ce qu'il disait, il me dit qu'il est à peu près aveugle. N'est-ce pas? Voilà, ça se passe comme ça, mais il y a une demande de notre part à tout écrivain courageux, franc et de valeur. Je ne vois pas. Je ne vois pas quelqu'un rejeté.
Même tel quel?
Mais à tel quel, il y en a qui ont s'en sorti d'abord, n'est-ce pas? J'ai connu autrefois Jean Éternalier. Ben, il me semble bien qu'il était un des fondateurs de tel quel. Bon, je ne peux pas vous dire que je partage toutes les opinions ou manifestations d'Éternalier. Ça n'empêche pas qu'il a du talent, voulez-vous. Philippe Solers a débuté la Nouvelle Revue Française. Solers est un homme qui est rempli de talent, bien entendu. C'est Ponce qui nous l'avait envoyé, je me rappelle. Il a sa place d'ailleurs dès qu'il le voudra, n'est-ce pas? Donc, le tel qu'elle aura disparu, mais ils sont très contents d'accueillir Solers, qui sera devenu. Il sera peut-être de l'Académie à ce moment-là, alors il sera libre. Si l'Académie sera libre.
La NRF était une revue volontiers anti-académicien aussi, non?
Ah oui, c'est une tradition. Et je voudrais vous dire une chose, c'est que quand nous avons repris la NRF, Jean et moi, Jean Paulin et moi, en 52, fin 52, nous étions donné notre parole d'honneur que jamais aucun de nous ne serait de l'Académie. De telle sorte que lorsqu'un jour, je ne sais pas, 7-8 ans plus tard, il me dit « Tu sais, je vais sans doute me présenter à l'Académie. » Mais je lui dis « Mais Jean, tu aurais dû... » Je me suis présenté à l'Académie. Je lui dis « Mais tu aurais dû me prévenir. » Il me dit « Mais tu vois, je te préviens. » C'était déjà fait. Non, en réalité, il avait été sollicité, comme on dit, depuis la Libération. Et en même temps, il y avait des histoires qui faisaient qu'il souhaitait une chose un peu officielle. C'était le moment où on gueulait beaucoup autour de la préface qu'il avait écrite pour l'histoire d'eau, vous savez. Je l'ai su, moi, ça, à la fois par lui, mais surtout par Maurice Garçon, qui était son avocat. Alors, Paulin a essayé de se couvrir, là, il avait songé, il avait hésité entre l'Académie Goncourt et l'Académie française, ou honnêtement. Et quand il était élu, bon, puisqu'il le voulait, j'en étais content, mais j'étais ennuyé parce que nos collaborateurs se sont trouvés partagés. Jusqu'au moment où, pour ma paroisse, comment ça s'est passé, c'était un jeudi ici, je reçois un coup de téléphone du psychiatre, Jean Delay, qui me dit, cher ami, je vais vous raconter une histoire, je sors de l'Académie, on s'est plaint des dernières élections, on ne votait pas beaucoup pour les écrivains, ça a continué souvent d'ailleurs à l'Académie, alors on a fait un vote libre. Et figurez-vous, vous avez obtenu les trois quarts des suffrages. Dans ces conditions, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, j'ai dit, écoutez, laissez-moi réfléchir. C'est très gentil d'avoir pensé à moi, mais je vous en prie, laissez-moi réfléchir. Je viendrai vous voir chez vous dans lundi prochain. C'était un jeudi. J'en parle à ma femme. On dit, bon, c'est très gentil, évidemment. Le seul avantage, c'est que je rejoindrai Paulin. Et aux yeux de nos camarades, de nos jeunes camarades, bon, il n'y aurait pas de scission. Mais finalement, nous décidons que ça ne me convenait pas, que je serais embarrassé, que je serais gêné, que je serais pas assez libre et tout. Et je vais chez Delay le lundi, il écoutera cette conversation. Je vais chez Delay et je lui dis comme ça, ben, j'ai bien réfléchi, cher monsieur, mais je pense que tout de même, il ne vaut mieux pas. Alors, il y a un très joli sourire que je n'ai pas oublié de Jean Delay qui me répond, mais cher monsieur et ami, ne pensez-vous pas que vous passerez pour bien orgueilleux? Alors, j'ai éclaté de rire, ça. Et je lui ai dit, bon, à condition qu'il n'y ait pas de démarche, il y a du tout. Et ça s'est passé, on a fait comme ça, ils ont été très gentils. Et moi, j'ai eu tort après de faire un discours incendiaire quand j'étais reçu de gueuler en disant « Messieurs, vous n'avez pas de droit, vous n'avez que des devoirs, etc. » Ce qui a fait un scandale, évidemment. Je n'aurais pas dû, ce n'est pas la peine.
C'était « Revu et corrigé ».
Cette émission a été diffusée le 27 février 1976 sur France Culture.